Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, enfin de retour. Enfin, j'avais hâte de vous revoir, mes petits amis. Aujourd'hui, dans l'émission, on va parler entre autres de rumeurs sur Google. C'est comme ça que je les appelle. Rumeurs sur Google, on va parler entre autres du Google PC. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas? On va essayer de démêler tout ça. Mais pour l'instant, musique. And if you think that our dance was all in the hip, so well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and abused real easy when it comes to love. Wants to be the one who's in control, but the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in a telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the truth where you know there's no stopping it, and the phone where you know she's still rocking it. White Stripes, The Denial Twist, à La Connexion. Maintenant, c'est les nouvelles, les rumeurs sur Google se précisent, oui, cette semaine, en fait, à partir d'aujourd'hui, jeudi, le 5 janvier 2005, 2006, voyons, hey, déchirez toutes vos chèques un après l'autre, tellement c'est difficile de connaître la bonne date. OK, donc, les rumeurs sur Google se précisent une journée avant le discours très attendu qu'un des fondateurs de la compagnie californienne, Larry Page, doit faire lors du Consumer Electronics Show, le CES, qui s'ouvre aujourd'hui, jeudi, à Las Vegas, dans l'État américain du Nevada. La rumeur qui a été augmentée par la sortie lundi d'un article du Los Angeles Times voulant que Google se lance dans la vente d'un PC Google semble pour le moment être morte et enterrée. Il préfère plutôt continuer à créer de nouveaux partenariats avec d'autres excellentes entreprises. Une autre rumeur appuyée par le blogueur Robert X. Cringely en novembre dernier fait état de la sortie d'une sorte de boîte électronique Google qui servirait de lien entre l'ordinateur et les autres produits électroniques de la maison. Par exemple, il serait possible de télécharger un film et de le regarder directement sur la télévision grâce à cette boîte de jonction entre les divers appareils. Cependant, la seule rumeur qui semble plus plausible pour l'instant est la création d'un nouveau service de Google qui permettrait, un peu comme le site web, hein? iTunes d'Apple, d'acheter des documents vidéo en ligne ainsi que quelques logiciels. Cette rumeur a été avancée hier, mercredi, par le prestigieux Wall Street Journal, l'une des références en matière économique. Les partenariats de Google seraient faits, selon l'article du Wall Street Journal, avec des chaînes de télévision pour acquérir les droits de vente, plutôt qu'avec des fabricants de pièces informatiques pour la vente d'un quelconque PC. Donc, pas de PC Google. Et pour voir les autres articles, il faut aller où? Sur le cnx.cfou.ca maintenant, comme à chaque semaine, voici Danny Janvier qui va nous parler plus tard sur PlayStation 2 d'un jeu assez spécial.
Oui, cette semaine, je me pervertis ou je me contredis parce que j'ai touché à la Game Boy Advance, donc vraiment le fun.
Hey, tu t'en permets des affaires. Toi. Ouais, pendant les fêtes, ils se jettent sur des consoles de Nintendo.
Je m'en permets.
OK. Non, Danny, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé pour la connexion.
Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été ensemble pour une émission de radio.
C'est depuis l'an passé, genre.
Au moins l'année passée. C'est ça. C'est loin, ça, là. Donc, bon retour à toi et bon retour à ceux à la maison. Ça fait une semaine qu'on n'est pas là, donc cette semaine, il a fallu travailler deux fois plus dur pour trouver deux semaines de nouvelles. On fait un petit résumé. Et tantôt, plus tard dans l'émission, je vais faire un genre de mini résumé de ce qui s'est passé en 2005 aussi. On peut pas passer à côté. T'as pas le choix,
c'est revu.
Une revue. T'as pas le choix, faut que tu le fasses. C'est la règle. C'est écrit dans le guide de l'animateur. Faut que tu fasses une revue de l'année. En tout cas, on continue une deuxième rumeur. Tiens, au sujet de. Non, tiens, c'est pas une rumeur en fait, c'est une vraie grosse nouvelle. L'inventeur du web démarre son propre blog. Tim Berners-Lee a lancé son propre blog près de 15 ans après son invention du premier navigateur web. Donc, Tim Berners-Lee compte aborder des questions techniques sur le web sémantique. Avec sa modestie habituelle, il explique dans un post, un billet qu'on appelle en français, que son travail repose sur celui des autres, notamment l'invention d'Internet par Vint Cerf et Bob Kahn. Un autre de ses messages parle du premier navigateur web qui est en réalité un navigateur et éditeur qui permettait de modifier le contenu des pages web visitées à condition d'en avoir le droit, évidemment. Hein, quand même. Citant le succès des blogs et des wikis, Tim Berners-Lee indique également que son idée d'offrir un espace de création aux gens semblait fondée. Et sa contribution au développement de technologies aujourd'hui très utilisées, que pour ça, donc, il a été sacré chevalier, voilà, par la reine d'Angleterre, mais tu sais, qui ne l'a pas été, tu sais, de ces temps-ci, tout le monde s'est fait faire chevalier par la reine, donc il a reçu aussi le prix Millennium 2004. 15 ans qu'il a inventé le premier navigateur web, c'est une grosse affaire.
Et c'était quoi?
C'était laid. C'était vraiment laid. C'était juste ça. C'était un logiciel pour aller voir des sites web et les éditer. C'est rien de plus compliqué que ça. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'images.
Hein. Non, c'est ça. C'était surtout du texte.
Surtout du texte.
Du contenu à l'époque.
Du vrai bon contenu. Ah, il n'y avait pas de flash dans ce temps-là non plus.
Il n'y avait pas beaucoup de sites de fesses non plus.
Non. En texte, c'est difficile. Peut-être des textes érotiques.
Tu sais, quand tu fais des dessins avec des lettres, tu sais, avec des...
de l'ASCII.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ah, il n'y a pas de publicité non plus. Grosse affaire, ça. En tout cas, selon un récent sondage effectué en décembre... C'est du passé, ça. C'est l'année passée, franchement. La majorité des personnes intéressées par la balado-diffusion, les podcasts, seraient en fait des hommes. Hein? C'est un sondage de la firme PodTrack qui montre que 78% des personnes qui téléchargent de la balado-diffusion ou du podcast des MP3 qui se téléchargent automatiquement sur un lecteur MP3 seraient des hommes, 78%. Selon la firme, ce phénomène suit une tendance similaire à celle qui se produit avec l'arrivée de chaque nouvelle technologie de consommation qui intéresse en premier la population masculine et ensuite la féminine arrive.
Ouais, après, quand les femmes y accrochent, c'est rendu vraiment populaire.
C'est rendu plate tellement que les hommes veulent plus rien savoir. Ça,
ils changent de technologie.
Podcast. C'est ça. On va trouver d'autres choses à faire. Grâce à la popularité toujours croissante des lecteurs audio numériques, l'attrait pour la balado-diffusion qui est né cette année, concept né cette année, c'est de l'année passée, franchement.
Ouais.
C'est pas à jour, ça, là. C'est un article du 27 décembre. Le sondage a été réalisé par la firme Taylor Nelson Surfrest sur 1000 adultes sélectionnés dans la communauté web, donc c'est pas tellement fiable, c'est juste, moi je trouve que non. C'est 1000 personnes, c'est pas assez. Non?
Non.
Ben moi je pense pas. Un autre sondage, tiens, un sondage américain qui a été publié jeudi dernier, l'autre jeudi d'avant, ça fait un maudit bout, qui dit que les hommes sont de plus gros consommateurs de nouvelles, de résultats sportifs et de pornographie sur le web que les femmes, qui sont quant à elles intéressées par les sujets liés à la santé, les relations interpersonnelles et à la spiritualité.
Oui.
C'est la spiritualité.
À l'aspirine aussi.
Spiril et à l'aspirine. C'est un article qui a été publié dans l'agence de presse britannique Reuters. Selon cette étude, 21% des hommes consultés avouent consommer de la pornographie sur Internet contre seulement 5% pour les femmes. 21%, ça c'est ceux qui veulent bien l'avouer par contre. Je pense que oui. L'équipe de chercheurs de Pew Institute estime cependant que ce nombre est probablement plus élevé dans la réalité, puisque plusieurs personnes n'avouent pas consommer de la pornographie sur Internet. 6403 personnes ont participé à l'édition 2005 de cette étude de Pew Institute. Tous les détails, il y en a beaucoup, sont sur le cnx.cfou.ca.
Moi, je suis sûr qu'on pourrait aller voir dans les ordis n'importe qui puis trouver au moins une ou deux photos de sexe.
Au moins.
Ça, c'est clair.
À moins que les gens les effacent après les avoir regardés.
Ouais, mais aller dans le temple, là, on irait voir.
Ah ouais, les fichiers temporaires.
Dans le fichier temporaire. On ferait le saut, peut-être.
Je pense que oui. Ah, je te demandais même pas si
quoi?
Tu fais partie du sondage.
Ben là.
En Oregon, un homme plaide coupable d'une attaque informatique contre eBay. Un homme vient de plaider coupable mercredi dernier, ça doit être vers la fin décembre, à la Cour d'Oregon d'une attaque informatique effectuée contre le site web d'enchères eBay en 2003, selon un communiqué de presse du procureur de l'État américain. Anthony Scott Clark, 21 ans, est accusé d'avoir fait des dommages intentionnels à un ordinateur, un crime qui pourrait lui valoir une peine d'emprisonnement de 10 ans, ainsi qu'une amende du double des dommages qu'il a causé. Entre juillet et août, Clark et ses complices ont créé un verre qui s'est répandu sur plus de 200 000 ordinateurs. Le verre permettait aux pirates de diriger les ordinateurs contaminés sur eBay, saturant donc les serveurs du site web d'enchères. Si je comprends bien, c'est ce qu'on appelle du... Denial of quelque chose. C'est l'affaire que tu pings bien souvent le serveur jusqu'à temps que le serveur s'écroule. Denial of service attack. Un DOS attack.
C'est tout le champion aussi.
C'est ça, oui. Les dommages qui n'ont pas encore été déterminés par le juge varient entre plusieurs dizaines de milliers de dollars américains jusqu'à plusieurs millions. Une porte-parole d'eBay a souligné que le site web d'enchères ne prenait rien à la légère et qu'il comptait poursuivre quiconque attaquerait la sécurité informatique du site web. Le juge déterminera la sentence d'Anthony Scott Clark en avril 2006. Ça me fait penser, c'est un débat qui n'a aucun lien avec la technologie, ça me fait penser aux mineurs en Virginie-Occidentale qui ont été emprisonnés dans la mine.
Ouais.
La madame veut poursuivre, les médias ou je sais pas trop quoi, pour la peine qu'elle a eue. Tu te rappelles que, je vais revenir rapidement sur les faits, tout le monde les connaît, je pense.
Non, même pas moi.
C'est pas grave.
Donc, vraiment
pas. Il n'y a rien de mal à ça. C'est qu'en premier, je sais même pas pourquoi je parle de ça, mais en premier, les mineurs ont été emprisonnés dans la mine. Ensuite, les médias, vers les minuit, il y a quelques jours, ont annoncé que 12 de ces mineurs-là étaient en vie. Et quelques heures plus tard, il a fallu qu'ils se corrigent en disant que seulement un seul était en vie. Donc, ça a provoqué une espèce de commotion. Les gens étaient super heureux. Et là. Puis, il y a une madame qui veut poursuivre les médias ou quelque chose. C'est spécial.
On pourrait poursuivre la terre aussi qui s'est écroulée.
Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, c'est évident. En tout cas, tout ça pour dire que, allez vous renseigner sur ce sujet-là. C'est très, très triste. Mais c'est pas nécessairement la faute des médias au complet. En tout cas.
Donc, à appeler à 1-976, moi je braille.
OK. L'Australie. Hey, l'Australie, tu connais l'Australie?
Non.
Vaguement.
Les kangourous, là,
vaguement, oui. Et les pandas. C'est pas les pandas.
Non.
C'est un autre sorte.
Des koalas.
Koalas, c'est ce que je cherchais. Ça paraît-tu que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de radio? OK. L'Australie est en voie de légaliser les enregistrements de télévision et les transferts de CD en MP3. Très, très grosse nouvelle qui va sûrement affecter le monde de la technologie partout au monde.
Dans le monde, même ailleurs.
Même au monde. Le gouvernement fédéral d'Australie serait en voie de légaliser en 2006 l'enregistrement d'émissions de télévision sur DVD ou VHS, ainsi que la conversion numérique d'un CD en MP3. C'est ce qu'on peut lire dans un article de news.com.au. Une porte-parole du gouvernement australien a indiqué que le procureur général et son équipe travaillent à mettre la touche finale à un projet de loi qui serait soumis au vote du Parlement l'an prochain, c'est-à-dire cette année. À cause de la législation actuelle, des milliers d'Australiens enfreignent quotidiennement la loi en enregistrant leurs émissions préférées sur VHS ou en copiant des CD en MP3. Et ça, c'est pas juste en Australie, c'est partout dans le monde.
Dans le monde, ouais.
Le gouvernement australien doit trouver le juste équilibre entre les droits d'auteur et l'intérêt public. L'Australie n'envisage pas à l'heure actuelle d'adopter un système similaire à celui du Canada, où le prix des CD vierges ou des lecteurs MP3 est augmenté légèrement pour destiner une partie de l'argent vers des fonds pour les artistes. C'est ce qui se passe, t'achètes un iPod, il va y avoir un taux là-dessus qui va aller aux artistes, même chose pour les CD.
Moi, je trouve que t'avais vraiment la meilleure réponse. Là. Je veux dire, c'est des émissions... On parle pas des CD, on parle des émissions de télé, c'est public.
Ouais.
Tout le monde qui a une antenne sur ça.
C'est quoi la différence entre enregistrer une émission sur VHS et la télécharger? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas de différence.
Les deux, tu vas sauter les pubs. Là. C'est ils disent, ouais, mais tu sais, sur Internet, tu n'as pas de pub. Puis sur une cassette, t'es ouais, mais tu les écoutes pas. Là.
Mais non, c'est ça. T'sais, en tout cas.
Hein?
Mettons, pour le CD en MP3, c'est encore. Mais les émissions de télé, le fuck, les séries, etc. Mais bon, il dit là, des fois, sur des canals, mettons, spécialisés, mais encore, là, je veux dire, c'est quand même du public, là, c'est domaine public, quand même.
C'est ça. Puis c'est pas des postes que tu prendrais normalement, de toute façon, c'est un peu comme... Les gens vont... je peux comprendre ce que les gens vont dire. Par exemple, les films, il y a des gens qui vont dire, bon, ben, j'ai les télécharges, mais je serais même pas allé les voir, de toute façon, dans le fond, ils perdent pas d'argent. Oui, mais en même temps, oui, ils perdent de l'argent, parce que c'est un film que t'as vu... sans l'avoir payé. Donc,
t'as eu du divertissement gratuit.
C'est ça. Même chose pour la télé, parce que si t'as pas la chaîne, tu vas dire, ouais, ben, j'aurais pas pris la chaîne de toute façon. Fait que, tu sais, ouais, mais non, justement. Ils ont pas l'argent de la chaîne.
Ah, ouais.
Ils t'auraient payé énormément.
Et ça tient. C'est une discussion interminable.
C'est une grosse discussion.
Oh, ouais.
Une discussion qu'on fera une autre
fois.
On est
pas prêt de voir le bout encore.
On verra jamais, je pense. Twisted Transistor. Korn avec Twisted Transistor de l'album See You on the Other Side, de la connexion par technologie informatique et jeux vidéo avec Danny Janvier sur PlayStation 2 et moi-même, mon nom est Mathieu Plante en remplacement de Raoul Duguay. C'est ce que je fais.
Ben oui, j'aimais mieux Raoul, mais tu fais quand même une job pas si pire.
Ah, il était meilleur pour les émissions de technologie, Raoul.
Ben, en tout cas, ça gigait plus.
C'est vrai. Namco et Bandai, nouvelle de dernière minute, ça vient de sortir ce matin. Namco et Bandai se sont fusionnés. c'est officiel. On avait entendu parler depuis quelques mois. Bon, non. Namco Home Tech Inc. Namco Home Tech Inc. et Bandai Games ont annoncé aujourd'hui que la fusion des deux compagnies était effective maintenant. Donc la compagnie s'appelle... Bon là, attends, là c'est pas actif. Attends, et... Là! Namco Bandai Games, c'est très très original comme nom. Ils vont opérer depuis Santa Clara en Californie. Ça regroupe Bandai America Inc. qui faisait des jouets, Bandai Entertainment Inc. qui faisait des DVD, Namco America Inc. pour les arcades, Namco Cybertainment Inc. pour les salles d'arcade, Namco Networks America Inc. pour les jeux mobiles et Namco Bandai Games America Inc. pour les jeux vidéo. Je sais même pas si les autres étaient capables de retenir tout ça.
C'était soufflant. Hein?
C'est soufflant. Cette fusion permet également aux deux compagnies de regrouper sous un même toit plusieurs licences. Donc, ils vont pouvoir regrouper Pac-Man, Tamagotchi, Soul Calibur, Naruto et Tekken sous la même bannière. Donc, on va pouvoir imaginer un jeu avec un jeu de Naruto, par exemple, avec le moteur de Soul Calibur ou de Tekken. Ça va être trop génial. Ça va être trop cool. Namco Bandai Games. Magnifique. Lors de sa conférence de presse au CES de Las Vegas, donc ça c'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui encore une fois, au CES, Sony s'est exprimé au sujet du succès de sa première console portable en présentant des nouveaux titres aussi à venir en 2006. On se rappelle que la PSP a été lancée le 24 mars dernier aux États-Unis et au Canada. La PSP s'est vendue à plus de 4 millions d'exemplaires aux États-Unis. Ce chiffre donné par Sony est identique aux ventes de la Nintendo DS qui a été annoncée hier par Nintendo, toujours concernant le continent nord-américain. Cependant, le représentant de la firme japonaise ne précise pas s'il s'agit de consoles vendues ou de consoles qui ont été livrées aux manufacturiers.
Oh, c'est pas la même chose.
Grosse différence, c'est pas pareil du tout, là. Enfin, bon, 4 millions de PSP, je m'attendais à beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Surtout si la DS qui est beaucoup plus populaire, je pense, il me semble, au Canada.
Oh,
on a acheté une DS, ouais. À Noël, c'était populaire, ça.
En tout cas, elle est beaucoup plus chère, la PSP aussi.
Beaucoup plus chère, mais elle fait beaucoup plus de choses, les gens vont dire, par exemple.
Ouais.
Je sais pas.
Non, mais je sais pas, non.
Mais moi non plus, je sais pas.
Elle fait c'est quoi, de la lecture de films?
De films, de musique. Je sais pas, tu peux aller sur le web depuis la dernière version. Okay.
Mais l'autre, cool, avec le Wi-Fi, avec la DS, pour aussi, tout, les aussi. Deux écrans, puis un moteur qui est 3D aussi. Mm. Je trouve que c'est quand même, c'est peut-être pas c'est pas le même moteur, là, mais...
Ouais. Ben, je pense que les graphiques sont plus beaux sur la PSP.
Oui, mais en tout cas.
Ouais. Ah, tu sais, chacun a ses avantages, ses désavantages. C'est pas pour le même public, de toute façon.
Maintenant, j'ai découvert avec la Game Boy, justement, que les graphiques sont à chier, mais pourtant, c'est tellement beau, c'est tellement fun.
C'est à chier, ça dépend des jeux, là.
Mais
dépend,
non, mais...
Ça dépend de temps que la compagnie a passé.
Non, mais du 2D, là, je veux dire.
Ouais, non, je suis d'accord.
C'est toujours du 2D ou du 3D.
Mais il y a du simili 3D.
C'est ça, c'est de la simulation. Non, mais je veux dire, dans le sens que les graphiques sont... Ouais. Très très loin technologiquement, le c'est très très le fun, c'est ça, exactement.
Le gameplay est meilleur. Puis t'as combien de millions de plus de jeux?
J'avais vu tantôt 900, je pense. 900
mais sur Nintendo.com que tu es allé voir. Ouais. Parce que sur Nintendo.com, je sais pas s'ils listent tout.
Je pense que tous les jeux étaient listés. Il y avait près de 900
c'est...
jeux.
Je pense que c'est bien possible.
Mais juste déjà 900 jeux. Avant que tu vois le bout, là.
Ça fait pas si longtemps que ça que la console Game Boy Advance existe non plus. Je veux dire, ça fait quelques années. En tout cas. Bon, la conférence de presse de Sony, toujours au même sujet, au CES de Las Vegas, ça nous a rien appris de plus au sujet de la console PlayStation 3. Sony a préféré centrer son show sur la PSP et ses nouveaux produits multimédia comme l'arrivée de son premier lecteur Blu-ray. On peut cependant noter que la date de sortie annoncée pour la console aux États-Unis est maintenant renvoyée à un vague 2006. Et aussi, j'ai vu tantôt une nouvelle qui parlait de Halo 3. Il y a déjà, apparemment aux États-Unis, peut-être au Canada, je sais pas, mais des pancartes disant « Halo 3, réservez votre copie aujourd'hui, bientôt en 2006 ». Fait que t'as aucune date, mais tu peux le réserver tout de suite, te dépocher, tu sais, mais pas avoir de jeu.
Mais tu sais pas quand tu vas l'avoir.
C'est le fun, c'est vraiment le fun. Très très bonne idée.
Ben, ils prennent cet argent-là pour continuer à le développer.
Parce que dans le fond, tu penses qu'il est pas vraiment fini.
Il est pas fini, c'est clair.
En tout cas, donc il y a rien de nouveau pour nous autres en technologie, mais faut pas être déçu parce que la firme japonaise a promis qu'elle va présenter la PlayStation 3 au cours d'un événement exclusif qui va se dérouler au mois de février. Encore un mois, donc, avant de tout savoir. On vous laisse quand même sur l'article des images de la PlayStation 3 qui a été exposée sur le stand du constructeur au CES. Ils ont vraiment montré la console, mais on peut rien faire de plus avec.
C'est une boîte en plastique avec un rien.
Comme la Revolution l'autre fois, hein, c'est ça. Tu peux mettre, je te jure, la Revolution, le bout, je pense que c'était à l'E3, tu peux mettre un DVD dedans ou un CD, puis tu l'entendais cogner le fond de la... Donc, c'est pas, c'est juste une boîte.
Hey, GameCube, hein, en ce moment, en vente à 72$.
Ah, pour vrai, ça a vraiment baissé. Ouais. C'était
72.
C'était 120 la semaine passée.
Les rabais, là, genre du Boxing Day, etc. Genre, là, mais je l'ai vu, on le dira pas où.
C'est un magasin anglophone.
Ouais, une grosse, la plus grosse chaîne, finalement, du monde. Ouais.
Celle qui se passe comme dans le futur.
Ouais, ben, 72$ pour une GameCube, en tout cas.
Avec un jeu, non?
Ben, non, celle-là, c'est juste le jeu, la manette, la console, la manette.
Ah,
C'est une joke, là, 70$ pour une console.
Et ça me tente, hein? Ça me tente. Moi qui m'ai fait voler ma GameCube, ouais, pour ceux qui ne seraient pas à la maison.
Il y a Jack aussi, je pense.
Jack aussi, oui.
Donc, allez vous acheter une GameCube, ça coûte pas cher.
On va faire ça. C'est le mois de janvier, c'est les gros rabais d'après Noël, ça tombe bien. Microsoft vient de confirmer l'arrivée d'un lecteur HD-DVD pour la Xbox 360. On s'y attendait, c'est fait. Mais attention, parce qu'il n'est pas question ici de proposer de nouvelles consoles équipées de cette technologie. Mais plutôt de mettre à la disposition de la Xbox 360 un lecteur externe HD-DVD. C'est prévu pour cette année. Il va être accompagné d'une cinquantaine de jeux HD d'ici à cet été. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En tout cas, enfin, Microsoft précise vouloir vendre d'ici à la fin du mois de juin plus de 5,5 millions de consoles à travers le monde, tandis que Sony se prépare à lancer sur le marché sa PS3 avec la technologie Blu-ray d'ici au printemps. Donc c'est ça. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que la Xbox 360 lit que des DVD et non pas des HD-DVD, même si les jeux sont en DVD normaux. Même, ben, tu sais, en DVD qui fonctionne sur une télé haute définition, mais il y a une différence entre les disques DVD, HD-DVD qui sont haute définition et les télé haute définition. Mais on va pouvoir les matcher parce qu'il va y avoir 50 jeux environ en HD-DVD et des films qui vont sortir sur ce format-là. Ça va être génial, ça va être la grosse qualité. Ça va pas faire des jeux meilleurs, par exemple.
Non.
Vraiment pas. C'est Tetris en HD, pas fort. Moi, j'aimerais ça, vraiment. Moi, je pense que j'aimerais ça. Je pense que j'aimerais vraiment ça. On revient tout de suite.
Tu en achèteras un gratteux, là, Tetris, qui est sorti.
Yes! J'y vais tout de suite. Vous écoutez la connexion à 89.fm. Bon retour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, en se dépêchant, vas-y comme tout de suite, voici la critique de jeu PlayStation 2. Bonjour, Danny Janvier.
Yo
man brother.
Yo bitch.
Nigga bitch.
Salut, ça va?
Ça va toi?
Yes, et oui, ben non, cette semaine, je t'ai fait mentir, je ne suis pas sur ma PS2, je suis assis sur une chaise.
Oh mon dieu.
Non.
Attends, c'est vrai, attends une minute, t'es sur Game Boy Advance?
Ben oui,
c'est bien trouvé. Attends, c'est parce que je l'ai, ah. Attends. Oui, je l'ai pour de vrai, fait qu'il faut m'attendre, parce que je veux vraiment le passer, ça va être super bon, si je le trouve. Ça va être vraiment, vraiment bon. Ah oui, attends, ok, attends.
Chut, attention, on recommence.
Attention, on recommence. Hein? C'était hot! Prise 2!
Génial!
Yes! Ok,
bon. Donc, eh bien, oui, j'étais sur Game Boy Advance, sur le petit Game Boy SP avec la nouvelle écran, avec ses très très brillant.
C'est brillant, j'aime ça.
Et c'est vraiment le fun, même au réglage, le moins brillant est parfait. Ça va très très bien. Donc, j'ai eu le plaisir de jouer à Mario Power Tour. Et, c'est ça, Power Tour.
Mario Tennis Power Tour.
Mais me semble, il est pas. Me semble, c'est juste écrit Power Tour.
On va aller voir.
Parce que le tennis Power Tour, c'est sur Game Boy.
T'as sûrement raison.
Mais en tout cas, peu importe, j'ai joué à ce jeu de tennis, justement, avec les personnages si géniaux et si gentils, vas-y.
C'est bien Mario Tennis, 2 petits points Power Tour.
Bon, ben, c'est toi le meilleur. On le sait de toute façon. J'ai joué à ce jeu-là. Vraiment excellent. Au début, je me suis dit, un jeu de tennis. On réinventera pas le genre, là. Taper sur une balle, puis retaper sur l'autre qui revient. Et quand j'ai commencé à jouer avec ce jeu sur la petite Game Boy Advance, celle-ci jolie, j'ai tombé dans le jeu et j'ai pas pu me relever. J'ai resté pris dans la console pendant des heures et des heures jusqu'à temps que je finisse en double le tournoi et en simple.
T'as-tu fini ça?
J'ai tout fini ça.
Wow.
Mais bien sûr, à facile, là, je l'ai pas mis à expert parce que je serais encore déçu. Mais c'est ça. Donc, c'est un jeu, un peu jeu de rôle, parce qu'on commence, on est à l'Académie du tennis, donc à l'Académie Mario, je sais pas quoi. On rencontre une... Faut d'abord se créer un personnage en mode scénario. On se crée un personnage qui soit garçon ou fille. Et là, on est dans notre petite chambre et on se fait demander par la petite madame, est-ce que tu veux jouer en simple, tu veux jouer en double? Alors tu décides, tu joues en simple ou en double.
C'est vraiment des personnages là, qu'on n'a jamais vus.
Oui, c'est moi, il s'appelait Danny le mien.
C'est des vrais gars, des vraies filles, c'est pas des personnages de jeux vidéo.
C'est pas des personnages de la famille Nintendo, non. Donc c'est un petit garçon, petite fille et tu commences et tu rentres à l'académie. T'as fait beaucoup parler de toi en rentrant là-bas parce que tout le monde te parle. C'est un jeu de rôle, donc on se promène, on va parler avec les gens pour savoir un peu quoi faire. Au début, on sait même pas où aller jouer au tennis, donc on pose des questions. Le jeu est disponible en français, en anglais, en espagnol.
Oh, français, c'est bien.
Très, très bien. Et même des petites voix françaises un peu répétitives, mais qui sont drôles, donc il n'y a pas juste du texte écrit en français. Et là, ben, c'est son... En évoluant dans l'académie du tennis, eh bien, on reçoit genre des informations. On dit, ah, ben là, tu commences, va voir les débutants à telle place, tu vas suivre. Tu suis ce que les indications te disent. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu peut-être beaucoup trop de texte parce que des fois, tu payes sur le bouton puis tu veux arriver. Mais au début, c'est peut-être un peu, c'est quand même bon de voir ce que tu peux faire, les possibilités.
Je te vois, t'as des ampoules, c'est pouces là.
Oh, oui, totalement. donc, comme ça, on peut se rendre dans les courtes de tennis et jaser avec les gens qui sont classés. Toi, t'es pas encore classé. Et le truc, c'est de te classer au niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Être le champion du niveau junior, du niveau senior et du niveau pro. Donc, dans chacune de ces trucs-là, on a plusieurs personnes à battre. Et ben c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut entremêler ça. On est tanné de jouer. On peut arrêter, saver ou interrompre la partie à tout moment. La sauvegarde se fait automatique. Ça, j'ai trouvé ça génial. Tu peux même fermer la console par erreur. Manquer de batterie, ça l'a savé ta dernière game. Ça, c'est très bien.
Fournisse le Gatorade aussi.
Oui, même la gang qui vient te jeter sur le dos quand tu gagnes, là, tu reçois un gros baril de Gatorade. En tout cas, c'est déconseillé là, de tenir la... C'est conseillé de tenir la console un peu loin. Là. Donc, sur ça... Donc, on peut se battre au tennis, jouer des parties de tennis, des sets, comme on dit, ouais, on joue des sets de tennis. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'entremêler, aller s'entraîner au centre d'entraînement, donc qui est une panoplie de mini-jeux, les plus amusants les uns que les autres, assez difficiles. Les niveaux 1 de chaque mini-jeu est même peut-être un peu trop facile, mais ça monte très très vite. Là. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, que j'ai pas été capable d'abattre dans aucun mini-jeu.
C'est le fun, les mini-jeux comme ça. Moi, je me demande vraiment comment ils font Nintendo pour réussir à trouver autant
d'idées originales,
de mini-jeux.
Genre, ouais. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec ces mini-jeux-là, c'est qu'ils vont upgrader ton bonhomme. T'augmentes les habiletés de ton bonhomme.
C'est l'aspect jeu de rôle.
Exactement. Puis, tout dépendant du mini-jeu, ça va être l'action que t'as à faire. Eh bien, ça va faire grandir ta ligne d'énergie ou de vie, tes skills, tes habiletés. Pareil comme dans un jeu de rôle traditionnel. Donc, c'est comme ça qu'on peut acquérir des super frappes, donc des coups un peu plus spéciales ou des récupérations assez exceptionnelles. Genre que t'es sûr de pas la rattraper la balle, mais avec ta super frappe, ta ligne de super frappe, eh bien, tu peux réussir à aller la chercher un peu n'importe où. Et ça, c'est vraiment le fun. Le jeu, comme je te dis, c'est du tennis, mais très accrocheur. Moi, j'ai aimé autant en simple qu'en double. Vraiment trippant. Et ben c'est ça. Quand on réussit à battre la série pro, eh bien, on nous amène en avion dans le royaume des nuages pour le tournoi Peach, le tournoi au pays des champignons. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi. Et là, c'est là qu'on se mesure aux membres de la famille Nintendo. Donc, Waluigi, Mario, Luigi.
Et là, après ça, il te donne comme personnage que tu peux utiliser.
Exactement. Mais on peut pas les utiliser en mode scénario.
Ah.
On peut seulement les utiliser en mode exhibition.
Ah.
Et les modes exhibition sont quand même assez bien. Ça, c'est justement, c'est là. Mais du début, tu peux les utiliser en mode exhibition, les bonhommes de Nintendo.
Depuis le début,
Sauf que ils vont avoir des nouvelles facultés. Genre, ils sont en mode étoile, mode star. Là. Donc, en tout cas, ça, c'est très, 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 très le fun. Et ben c'est ça. C'est un jeu de tennis. La famille Mario, je vous dis, c'est très accrocheur. La durée de vie, à facile, peut-être pas assez longue là, quand que tu y mets la touch, quand tu décides d'embarquer dedans. Mais... juste à monter le niveau de difficulté, puis vous allez sacrer en masse. Donc, le jeu va durer plus longtemps. La cote que je pourrais lui donner, moi, j'ai pas été voir aucun site, mais je pourrais lui donner facilement un 9 sur 10 parce que j'ai pas vu beaucoup de points négatifs à ce jeu-là. Je l'ai trouvé même tout simplement parfait. Il y a pas grand-chose à rajouter.
J'aime ça. C'est bon.
C'est ça.
Est-ce que tu l'achètes, tu perds, ou tu loues?
Ben moi, je l'ai acheté. Mais louer, je pense que... Je sais pas si ça se loue-tu des jeux de Game Boy Advance?
Pas tellement, non.
Donc, à acheter.
Acheter! Yes.
Peut-être attendre qu'il soit usagé. Là.
Ouais, dans les bins à 20$.
Ouais, ben, peut-être pas les bins à 20$, mais juste de l'avoir usagé parce qu'il est encore dans les jeux nouveaux là, à 40-50$.
Merci, Danny.
Merci à toi.
On fait le résumé, donc c'est édité par Nintendo, développé par Camelot Software dans le genre sport tennis pour 4 joueurs. C'est coté E pour tous et c'est sorti le 5 décembre 2005. Selon 16 critiques reconnues partout dans le monde, la note est de 80, donc généralement favorable. Et selon 2 votes du public, aussi 80 sur 100. Le jeu s'appelle Mario Tennis Power Tour sur Game Boy Advance. Encore une fois, merci beaucoup, Danny. Avant de passer en musique, on fait le top 5 des jeux les plus loués pour la semaine, se terminant le 1er janvier 2006. Très très récent, c'est pas si chaud que ça dans le fond. Cinquième position, c'est Prince of Persia The Two Thrones sur PlayStation 2. En quatrième, le même jeu sur Xbox. En troisième, Need for Speed Most Wanted sur Xbox. En deuxième, le même jeu sur PlayStation 2. Et le jeu le plus loué pour la semaine se terminant le 1er janvier 2006 est Mario Party 7 sur GameCube. Maintenant, musique.
Dans la ville en beauty, comme dans un classique de série B. Dans une scène au ralenti, une métaphore aquatique, ou une baleine symbolique. Avale un décor en plastique, j'avance dans ce rêve en bibi depuis le début. La pluie. J'ai vu les gorges se remplir, vu se noyer les animaux, et tout ça pour un sourire, à faire fondre les glaciers, à faire gonfler l'Amazon. Et j'ai ri des vagues profondes, une star de la catastrophe, une étoile de fin du monde. Palmier, croix de vent, accrochons-nous, amis, avant que nos cœurs ne soient palmés. Reste plus rien en nous humains, tant les yeux seront calmés, qu'on pourra recommencer.
Philippe B avec le déluge à la connexion par technologie informatique et jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante. Danny Janvier sera de retour dans quelques minutes pour commenter d'autres nouvelles, mais pour l'instant, parlons un petit peu de jeux vidéo. Une nouvelle publiée le 4 janvier dit que la nouvelle édition du magazine Famitsu annonce dans ses colonnes une information très intéressante concernant l'évolution du marché des consoles au cours de l'année 2006. D'après ce qu'on peut considérer comme une des sources les plus fiables au monde, le système reviendrait sur le devant de la scène dans une version révisée au printemps prochain. Le magazine japonais parle en fait d'une console relookée à la manière de la Game Boy Advance SP ou de la PS2, la version plus mince de la PlayStation 2. De manière légitime, on peut alors déjà penser à la Nintendo DS, puisque Reggie Fils-Aimé de Nintendo avait déjà déclaré que la firme travaillait sur une révision de sa console à double écran. Pour illustrer cette nouvelle, le site de jeuxvideo.fr a posté une photo proposée par un fan qui imagine ce que serait la Nintendo DS SP. Genre un deuxième modèle de la Nintendo DS. C'est une photo quand même cool. Je trouve que c'est bien pensé, mais je penserais pas que ça risque d'arriver parce que ça ressemble beaucoup trop, selon moi, à la PSP. Mais en tout cas, allez voir la photo sur l'article que j'ai posté au cnx.cif.ca et qui s'appelle « Une DS relookée au printemps ». Nissan en Amérique du Nord et Microsoft Corp ont mis leurs talents en commun afin de créer le premier système de jeu complètement intégré à une voiture. Conçu par Nissan Design America et équipé d'une Xbox 360, la Urge, telle qu'on l'appelle, est une voiture qui permet au conducteur, lorsqu'elle est garée, évidemment, lorsque la, lorsque la voiture est garée, hein, quand même, de jouer à Project Gotham Racing 3 en utilisant la direction et le pédalier de la voiture tout en visionnant leurs exploits sur un écran LCD rétractable de 7 pouces, environ 17 cm. Enfin, il faut savoir que la Urge va être présentée lors du Salon Automobile de Détroit le 9 janvier prochain. Et pour ceux qui seraient dans les parages, le salon va être ouvert au public du 14 au 22 janvier. Pour les autres, il reste toujours les photos que j'ai postées sur l'article cnx.ca. L'article s'appelle « Une Xbox 360 dans un concept Nissan ». Une nouvelle qui a été postée le 27 décembre, le magazine japonais Dejinki nous apprenait que la révolution serait terminée. Hein? D'autres rapports vont dans le même sens en nous apportant plus de précision. Donc, selon une source japonaise citée par plusieurs magazines en ligne, la nouvelle console de Nintendo, la Revolution, serait déjà prête à rentrer dans sa phase de production massive. Toujours selon cette source, la Revolution devrait être lancée au mois de mai 2006 au Japon, ce qui laisserait donc 5 mois aux constructeurs pour tenter de fabriquer assez de machines. On attend maintenant avec la plus grande impatience de savoir plus sur le fameux hardware de la firme. Ça, j'aime vraiment qu'ils font ça, de la firme du plombier moustachu. Non, c'est pas, qui va lancer ça bientôt. En tout cas, tout ça pour dire que la Revolution est peut-être terminée et va bientôt entrer en phase de production de masse. Et j'ai d'autres nouvelles de jeux vidéo, je crois, en quelque part, mais passons à des nouvelles d'informatique maintenant. On parle de John Diebold, un des pionniers de l'informatique, qui est décédé à 79 ans. John Diebold, l'un des pionniers de l'informatique, est décédé d'un cancer dans sa maison située à Bedford Hills, dans l'état de New York. C'est ce qu'on peut lire dans le New York Times de mardi dernier. Cet article date du 27 décembre. Diebold, qu'on doit prononcer Diebold, a révolutionné le monde de l'informatique en 52 en publiant son livre Automation, un livre où le titulaire d'un baccalauréat en génie ainsi que d'une maîtrise en administration de Harvard incitait les entreprises à faire le saut en informatique. Plusieurs des idées de John Diebold ne trouvaient écho qu'après plusieurs années. Par exemple, dans les années 60, Diebold avait proposé le concept d'un clavier d'entrée de données qui pourrait éventuellement remplacer les dactylos de l'époque. Et cette idée a été lancée par l'ingénieur, puis c'est finalement donc concrétisé que quelques années plus tard. C'était un précurseur, un visionnaire, quelque chose du genre. Donc John Diebold. On va d'ailleurs parler de d'autres faits importants qui sont passés cette semaine dans l'histoire, dans la chronique. Cette semaine dans l'histoire, plus tard dans l'émission. Mais maintenant, le navigateur Opéra ne serait pas dans la mine, dans la mire, dans la mine, dans la mire. La mine dans la mire et le... C'est pas la toune de... Enfin. Donc, ce serait pas dans la mire de Microsoft. Le navigateur Opéra serait pas dans la mire de Microsoft, c'est ce qu'a expliqué à la presse un représentant de la compagnie norvégienne après une série de rumeurs la semaine dernière voulant que le géant américain ait surpassé Google dans une offre pour acheter le logiciel Opéra. La rumeur se serait répandue vendredi dernier comme une traînée de poudre sur Internet peu de temps avant Noël. Le porte-parole a toutefois expliqué qu'aucune offre n'avait été faite par Microsoft ou Google pour acquérir le navigateur web. Par contre, si les rumeurs sont fondées et que Microsoft veut bel et bien se porter acquéreur d'Opéra, il resterait alors que deux navigateurs principaux pour se faire concurrence, c'est-à-dire Explorer et Firefox. Pour le moment, Opéra ne rejoint qu'une clientèle aux alentours d'1% du marché des navigateurs web, contrairement à Firefox qui est proche des 7,55 et Explorer qui détient au-dessus de 87% du marché. Netscape et les autres navigateurs moins populaires complètent le portrait. Malgré la faible popularité du navigateur Opéra sur les PC, la version Opéra Mobile pour les téléphones cellulaires représente un aspect beaucoup plus intéressant qui pourrait porter une grosse compagnie comme Microsoft ou Google à bien vouloir acquérir cette petite firme norvégienne. Raymond Lechel qui s'appelle Opéra Mobile, plus souvent. C'est un genre de navigateur qui réussit à rapetisser les pages de façon à ce qu'on puisse les lire sur un navigateur de téléphone cellulaire sans toutefois tout défaire la maquette. Les Sud-Coréens vont pouvoir recevoir des actes d'accusation sur leur téléphone cellulaire. Parlant de ça, les procureurs de la justice sud-coréenne vont pouvoir dorénavant envoyer des actes d'accusation par le biais de messagerie texte de téléphone cellulaire. C'est ce qu'on pouvait lire dans un article de Reuters. Selon le ministre de la Justice de la Corée du Sud, plus de 75% des Sud-Coréens possèdent maintenant des téléphones cellulaires et il était temps, selon eux, de faire cette transition pour éviter d'envoyer les papiers par courrier traditionnel, ce qui peut créer des délais de plusieurs jours avant que les personnes ne soient au courant qu'elles sont accusées d'une infraction quelconque. Grâce à cette utilisation de la messagerie texte pour envoyer les actes d'accusation, mais aussi les autres informations d'ordre légal, comme des amendes, le ministre sud-coréen de la Justice s'attend à sauver près de 200 000 $ canadiens, soit 160 millions de won par année en impression de papier. Les actes d'accusation devraient prendre personne par surprise puisque les gens devront s'inscrire en premier lieu au service pour recevoir les informations légales sur leur téléphone cellulaire. faut s'inscrire pour ça. C'est le fun. Ce nouveau service devrait débuter en Corée du Sud. Ça a déjà débuté en Corée du Sud. Ouais, mais devrait être implanté plus en profondeur au courant de l'année 2006. On est déjà assez proche de la première heure que ça me tente tout de suite de faire la série en concert. J'ai décidé qu'une session complète, c'est un peu long. Hein? Des fois, on stand, on est un petit peu long. Hein? Donc, on va commencer la série que j'avais dit l'autre fois. C'est des séries d'un gars qui a fait des tunes de jeux vidéo originales qui sonnent vraiment, vraiment bien. On va faire ça pour les prochaines semaines. On va essayer d'en mettre le plus possible pour vous faire plaisir. Donc, cet homme s'appelle Paniflex Jones. Paniflex Jones, oui. Et la série, vous pouvez la retrouver sur le lien que j'ai posté sur le cnx.ca. Ce qu'on va entendre aujourd'hui, ça va être les premières tunes, au moins les 3 ou 4 premières tunes de cette série-là, qui s'en vient très bientôt. Pour l'instant, je peux quand même vous rappeler qu'il faut nous contacter par téléphone au 376-5011. Si vous avez des commentaires, le 376-5183, qu'est-ce que je raconte? 376-5183, Danny était là, puis il me pointait sa feuille. Comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? 376-5183, c'est notre numéro de téléphone en studio. Pourquoi je l'ai oublié? Parce qu'on ne le mentionne jamais. C'est pour ça que vous ne vous appelez pas. On ne peut pas être surpris de ça. Et plus tard, dans la deuxième heure de l'émission, invité spécial. Ça va être super fort. On va parler d'un sujet très, très chaud. Un sujet qui est chaud et qui n'arrête pas d'être remis à plus tard. Je vous donne des indices comme ça pour que vous puissiez peut-être comprendre ça par vous-même. Enfin bon, commençons tout de suite la série en concert. Voici Paniflex Jones avec Check Engine. Tout de suite à la connexion. Ah, c'est fou, 89.1 FM, restez là. La connexion revient dans quelques minutes. Pièce Check Engine de Paniflex Jones dans le mix en concert de la connexion. Voici une deuxième pièce, sa pièce vedette, Cherry Vanilla Soda, la connexion. Bon retour à la connexion, une émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante et avec moi, comme à chaque semaine, Danny Janvier.
Oh,
oh, oh, hey.
Salut.
Salut, ça va?
Ouais, ouais.
Tu t'en fous pas, là? Tu t'en fous pas de...
Ouais, bon. Fous de tout, de toute façon.
Non, non, c'est pas vrai, je vais raconter la situation. C'est que on n'a pas été là la semaine passée, on était en congé. Voilà, la semaine passée, on n'était pas là. Donc, cette semaine, il a fallu que je trouve deux semaines de nouvelles parce que je voulais évidemment tout faire. C'est ce que je fais, je veux tout le temps tout faire.
Excessif,
obsessif, compulsif, c'est ça.
Oh, oui.
Donc, cette semaine, dans la deuxième heure, on va parler de beaucoup de choses. Entre autres, la reine Elisabeth II honore le concepteur de l'iPod. Hein, un petit peu, on a parlé de ça un petit peu tantôt, on va en parler encore plus. Dick Cheney, parlant de iPod. Dick Cheney est bien obsessif avec son iPod.
Il aime ça?
Il aime bien ça. C'est la première affaire qui branche. En tout cas, tantôt. Mais pour l'instant, en musique, voici Avenged Sevenfold avec Blinded in Chains, numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou pour la fin de cette année, depuis quelques semaines. Tout de suite à la connexion à CF89.FM. Avenged Sevenfold avec City of Evil, le nom de l'album, et Blinded in Chains, le nom de la pièce. Vous écoutez La Connexion. On parle technologie informatique et jeux vidéo à 689.1 FM. Dan Jarvis sur PlayStation 2 et moi-même, mon nom est Mathieu Plante. Restez là parce que plus tard dans l'émission, on a un invité spécial qui va nous parler d'un sujet chaud. Comme toujours, les trucs tordus du net s'en viennent, mais avant, encore quelques nouvelles. Un magistrat de la Cour fédérale américaine vient d'imposer une injonction au projet de loi du gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, que j'appelle Schwarzy, hein, parce qu'on se connaît, on est chum. Chum et chum. Donc, qui veut restreindre la vente et la location des jeux vidéo violents aux mineurs. Le juge Ronald White a accordé cette injonction préliminaire aux deux groupes qui en ont fait la demande, donc la Video Software Dealers Association et la Entertainment Software Association, en attendant que l'affaire soit possiblement débattue devant les tribunaux. Je voulais juste, excusez-moi, c'est parce que ça me déconcentre.
Quoi, Schwarzy est contre les jeux violents?
Ben, c'est un républicain.
Ben non, mais est-ce qu'il a déjà regardé ses films?
Je sais pas. Hey, t'as raison, c'est de l'ironie.
Sérieux?
Mais trop vrai.
Ben non, mais je pense que c'était une joke, là.
Ben non, c'est vrai.
Tu sais, Commando, je pense que c'est le film qui a eu le plus de balles tirées dans tous les films de toute l'histoire du cinéma. Mm-hmm. C'est ridicule, c'était juste ça de la bataille. Pis c'est...
Ouais.
OK.
Non, je suis d'accord avec toi. Donc, en tout cas, White, OK, le juge, c'est bien ça, le juge, le magistrat de la Cour fédérale américaine qui vient d'imposer une injonction à ce projet-là. Donc, White déclare qu'il serait malaisé de restreindre les droits des mineurs en matière d'accès à ces jeux vidéo, puisqu'une telle prise de décision viendrait à l'encontre du premier amendement qui leur garantit ces droits. De plus, le lien causal entre l'exposition de ces jeunes à ces jeux et c'est vraiment compliqué. De plus, le lien causal entre l'exposition de ces jeunes à ces jeux et les problèmes qui en découleraient reste à prouver. Il n'y a pas de preuve encore que les jeux vidéo décalent la violence chez les jeunes. La loi qu'avait adoptée l'Exterminateur le 7 octobre dernier devait entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Elle interdirait aux détaillants de vendre ou de louer des jeux vidéo jugés violents aux jeunes de moins de 18 ans et imposerait des amendes de 1 000 $ américains à ceux qui tenteraient de la contourner. C'est la 6e fois en 5 ans que des cours de juridiction fédérale américaine tranchent en faveur de l'industrie du jeu vidéo. À l'instar de la Californie, plusieurs autres États ont tenté de faire passer pareille loi, comme l'Illinois, le Michigan et le Missouri. Ça marche pas très bien pour ceux qui sont anti-jeux vidéo, parce que c'est brimé le premier amendement.
Et c'est payant.
Et c'est payant.
Non, mais c'est une industrie.
Ouais, c'est ça.
Pas dénigrer le.
Mais il a raison en disant qu'il n'y a pas de preuve qui dit que les jeunes sont plus violents à cause des jeux vidéo. Puis moi, je dis que c'est même pas le cas de toute façon.
Non, mais gars, justement, Schwarzenegger, ses films, c'est qui écoute ça? C'est des jeunes, là. C'est bien plus des jeunes que des vieux.
Ouais, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Terminator.
Mais non, mais c'est
Terminator.
Ça.
Terminator. C'est très violent comme mot.
Ben là, j'espère. C'est juste basé là-dessus.
Ouais.
Mais bon. Hein?
Ouais.
La cohésion dans les idées, des fois.
Ouais. On va voir, on va suivre le dossier, évidemment, ici, à La Connexion. La reine du Royaume-Uni, Elizabeth II, a honoré vendredi dernier le concepteur de l'iPod, Jonathan Ive, en le nommant commandant de l'Empire britannique. C'est ce qu'on peut lire dans un article de Reuters. Donc, Jonathan Ive, 38 ans, est vice-président senior de la conception chez Apple depuis 1997. Le londonien d'origine a étudié en art à la Polytechnique de Newcastle à la fin des années 80 avant de travailler pour la compagnie britannique Tangerine jusqu'en 91 et par la suite partir aux États-Unis pour devenir un des principaux artisans du design d'Apple. Le titre décerné par la reine souligne une carrière de 12 ans où Ive a été le designer responsable de nombreux concepts révolutionnaires qui aidèrent Apple à se retrouver un créneau lors d'une période très difficile pour la compagnie californienne durant les années 90. Ive est celui qui, selon qui, grâce au soutien du président Steve Jobs, a créé la facture visuelle du iMac. C'est lui qui a designé, si on veut, le iMac. L'ordinateur qui a marqué le retour d'Apple sur le marché des ordinateurs personnels à la fin des années 90. Plus récemment, l'homme et son équipe ont créé l'apparence très épurée du lecteur iPod, attirant des millions de personnes à se procurer ce lecteur. Le titre de commandant de l'Empire britannique, ou CBE, est le troisième titre en importance derrière ceux de chevalier de la croix et de chevalier. Ces titres ont été établis en juin 1917 par le roi à l'époque qui était juge Georgie Boy. Intel. Nouveau logo pour Intel. Hein? Je t'ai montré cette semaine, mais c'est pas celui-là, parce que ce que je t'ai montré, c'était l'ancien logo versus le ancien récent logo. Okay?
Okay.
C'est qu'il avait changé le E, il avait décalé. Et justement, il n'y a plus de E décalé dans ce nouveau logo qui vient tout juste d'arriver. Donc, le nouveau logo de Intel va perdre son E décalé au profit d'un ovale tournoyant autour du nom de la compagnie. Tandis que la devise va passer de Intel Inside à Leap Ahead, qui est le même concept que Just Do It ou Think Different d'Apple, genre de choses. Le premier logo a été utilisé depuis la fondation de la compagnie en 68. Son slogan a servi l'ascension fulgurante de l'entreprise de la Silicon Valley depuis son adoption en 1991. Ça fait seulement depuis 1991 que l'ancien slogan Intel Inside existe. Le président directeur général de Intel, Paul Otellini, a entamé cette refonte d'identité corporative en engageant Eric Kim, nouveau directeur du marketing, qui avait apparemment démontré son savoir-faire chez Samsung. Selon Interbrand, la valeur d'Intel se chiffrerait à 42 milliards de dollars. Grosse, grosse compagnie. On pourrait parler d'un magasinage record de Noël sur Internet. Oui, ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont été magasinés sur Internet parce que c'est difficile des fois de se rendre des magasins quand il y a beaucoup de monde.
Ça te tente pas non plus.
Ça tente pas. Puis la neige, la slush. Ça tente pas de marcher dans la neige.
Slush.
Moi, je suis à pied. Tu sais, j'aurais bien magasiné sur Internet si j'avais eu de l'argent. Une étude américaine révèle une hausse de 30% dans les achats en ligne effectués pendant la période du magasinage des fêtes. Selon Goldman Sachs, Nielsen Red Ratings et Harris Interactive, hein, c'est une grosse
étude. Hein.
L'enquête estime que les internautes américains ont dépensé 30,1 milliards de dollars US, ce qui exclut les voyages entre le 29 octobre et le 23 décembre 2005, c'est-à-dire une hausse de 30% par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation des dépenses sur Internet pendant la période des fêtes se fait principalement au détriment des ventes dans les magasins et boutiques, évidemment. Alors que 78% de l'argent était déboursé dans les magasins en briques et mortiers ou brick and mortar stores en 2002, les magasins normaux donc, cette proportion a subi un déclin régulier depuis, passant à 74, donc de 78 à 74 en 2003, à 72 en 2004, puis à 68, on a dépassé 70% en 2005. Les achats en ligne représentaient 27% des dépenses en 2005 au complet, contre 16% en 2002. Ça va très très vite. On peut télécharger le communiqué sur le site de Nielsen Net Ratings. L'article est sur le cnx.cif.ca, les lettres cnx.cif.ca. On a parlé de tantôt. Ça arrive, oh oui. Ça m'arrive souvent de parler de tantôt. Opéra, sur les téléphones cellulaires, tu te rappelles? Eh bien, Google va être l'engin de recherche du navigateur Opéra sur les téléphones cellulaires. Après une série de rumeurs voulant que Google achète la compagnie norvégienne Opéra, les deux entreprises sont plutôt venues à annoncer une entente commerciale où l'engin de recherche de Google va se voir intégré au navigateur d'Opéra pour les téléphones cellulaires. Google va être aussi intégré au navigateur Opéra Mini et Opéra Mobile. Le premier logiciel devrait être lancé officiellement à la fin du mois. Opéra Mini, ça va être un nouveau logiciel. Je sais même pas, je me rappelle pas d'avoir lu ça par contre, Opéra Mini. Pas grave, hein? On en parlera une autre fois. Mais en tout cas, Google qui va être sur téléphone cellulaire avec Opéra. Je vous ai parlé tantôt de peut-être faire une genre de rétrospective de 2005. Il y a beaucoup, beaucoup de stock dans l'article que j'ai trouvé sur branchezvous.com qui s'appelle Bye Bye 2005. Vous allez pouvoir aller le lire, mais je vais quand même faire un petit résumé. En janvier, on parlait de courriels frauduleux, le tsunami, etc. Le président de Microsoft, Bill Gates, avait donné 750 millions de dollars pour faire vacciner les enfants du tiers-monde. Ça, c'était en janvier. En février, le créateur du Mac, Jeff Raskin, qui avait nommé son bidule en l'honneur de la Macintosh, sa pomme préférée, est mort à 61 ans. La Chine a mis la clé dans la porte de 12 500 cafés Internet. Microsoft en a arraché avec 14 millions de ses consoles Xbox. Bell Mobility a lancé le BlackBerry 7250 au Canada. Le casino virtuel Golden Palace a payé 75 000 $ pour une frite. Tu te rappelles de ça? En mars, bonne nouvelle pour Bill Gates qui a été fait chevalier par la reine Elisabeth II, comme tout le monde, je pense. Même moi, je pense que je vais devenir chevalier. Bien.
Ça se peut, si tu continues ton beau travail.
Mon beau travail. Ah, c'est gentil.
Ton beau travail.
Ah, beau, pas bon.
Oh, non, c'est beau. C'est beau.
Il est pas très bon.
C'est émouvant.
je t'ai coupé. C'est pas grave. Il n'y a rien d'autre intéressant à part l'anniversaire de Yahoo en mars. 10 ans sur le web. Bonne fête à eux. Aussi Google qui a offert des comptes Gmail sur leur site web. En mars. En avril, c'était la mort du pape Jean-Paul II. Le CRTC a obligé les fournisseurs de téléphonie IP à offrir le service 911. Il y a eu une nouvelle pile au méthanol qui est arrivée. Rogers a lancé la télé en direct sur ses téléphones cellulaires en avril. Ça vient juste de commencer à pogner, mais c'est en avril que ça a commencé. En mai, le Google Web Accelerator a été lancé. Ça a fait une controverse parce qu'il y avait, c'était vraiment merdique. Genre, il essayait de prendre les pages web et te les montrer de d'autres serveurs plus rapides, etc., etc. Ce qui faisait que souvent, tu allais sur des forums et tu recevais les messages des autres, de d'autres utilisateurs. C'était bizarre. En tout cas, le Google Web Accelerator, je l'explique très, très mal, mais c'est pas grave. En juin, Michael Jackson, hein, suite à son procès, a célébré sa victoire sur son site web. Hein. Pac-Man fêtait ses 25 ans. Et les utilisateurs de Yahoo voient certaines salles de discussion fermées. Et Carla Homolka, évidemment, a fait beaucoup parler d'elle. C'est ça. Carla Homolka envers qui le clavardage hostile se voit exploser. Donc les gens ont parlé en mal d'elle sur le web. En juillet, hein, Grand Theft Auto, hein, c'est vu classé jeu pour adultes, après qu'une scène de nudité a été découverte dans ce jeu-là. C'est aussi durant le mois de juillet que les Denis Drolet ont vendu leurs cheveux sur eBay, pour une bonne cause. Et c'est en juillet aussi que le dernier Harry Potter s'est retrouvé sur Internet, après s'être fait pirater. En août, au Royaume-Uni, la BBC diffusait sa programmation sur Internet pour la première fois. En Allemagne, on reconnaissait que Tim Berners-Lee, on a parlé plus tôt de lui dans l'émission, Tim Berners-Lee, le créateur du World Wide Web, c'était l'homme de science le plus important du 20e siècle, selon la BBC. Aussi à ILT avec Albert Einstein. Et au Canada, la Disque s'est attaquée au marché aux puces. Vidéotron offrait son service de téléphonie par câble à Montréal. Les jeunes Canadiens délaissaient la radio et la télé pour Internet. Et la ville d'Ottawa s'est lancée dans l'émission de contravention électronique. C'était en août. En septembre, le lancement de l'iPod Nano, gros événement. Puis ensuite, la plateforme de téléchargement Casa a été déclarée illégale. Hein? Bell et Rogers se sont associés pour créer un réseau sans fil national. Quelques anniversaires, Microsoft a célébré sa trentaine en septembre, tandis que Branchez-vous a fêté ses 10 ans, bravo. C'est génial. En octobre, Sony, on a prédit que Sony allait remporter la guerre du DVD haute définition. Ça, c'était évident. Hein? Le dictateur déchu Saddam Hussein, son procès a été diffusé sur Internet. Bonne et mauvaise nouvelle pour le iPod, le modèle vidéo fait bien des envieux, mais le Nano fait les frais d'un recours collectif. Non, ça va être de ça. En novembre, plus d'un million d'utilisateurs d'ordinateurs auraient fait le saut de Windows vers Mac en 2005. Mais pour calmer les ardeurs de ses détracteurs, le iPod Nano est dorénavant vendu avec un étui protecteur. C'est parce que la controverse était qu'il s'égratignait facilement. En décembre, on se rappelle légèrement de la grosse controverse de Wikipédia. Hein? Wikipédia qui a été affronté par le journaliste John Siegenthaler Jr. en disant qu'il y avait des fausses informations qui avaient été publiées là-dessus. Ça fait de controverse. Et le mot podcast a été intégré au très crédible dictionnaire Oxford comme mot de l'année 2005. Google a poursuivi son ascension en rachetant 5% du géant AOL. Au Canada, Sharp a annoncé la mise en marché du plus grand téléviseur à cristaux liquides au monde. Et plusieurs vedettes ont fait la manchette. Le Dalai Lama possède maintenant son propre site web. Tandis que...
C'est celui qui l'update?
Je penserais pas. Je sais pas si c'est quoi un ordinateur. En tout cas. Donc, on mentionnera pas Paris Hilton. Il y a un paquet d'autres affaires. Janet Jackson.
Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué, Mathieu, le plus?
Moi, je pense que c'est l'arrivée de la PSP. C'est la seule affaire qui m'est venue en tête quand t'as mentionné 2005. Je pense que c'est pas mal ça qui m'a marqué. L'ascension de la DS, c'est sorti en novembre 2004, mais quand même, ça a monté en 2005. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué, toi?
Ben, moi, dans ce que tu viens de lire, ce que je trouve assez bizarre, c'est l'inventeur du World Wide Web qui serait le plus grand scientifique ou quelque chose du genre du 20e siècle. Je trouve que c'est carrément être dans le champ. Mmh. Ouais, parce que je veux dire, il y a eu des avancées beaucoup plus importantes. Mmh. 20e siècle, c'est long, là.
C'est vraiment long.
Mais en tout cas.
Bon. En tout cas, allez lire l'article si
c'est intéressant, par exemple, vraiment intéressant de faire une petite rétrospective.
Allez voir l'article au complet sur le cnx.ca. J'ai oublié de mentionner que la Xbox 360, c'est un événement qui nous a marqué dans le monde du jeu vidéo. Moi, personnellement, ça m'a pas marqué. Je pense que ça va plus me marquer en 2007 ou quelque chose
de genre. Quand elle va être un petit peu plus abordable. C'est et qu'ils vont parler de la 720, de la Xbox 720.
Ah, qui t'a doublé le chiffre, c'est bien joué, bien joué. La Game Boy Micro, qui m'a marqué, mais négativement, parce que moi, sérieusement...
Tu l'as essayé même, tu l'as eu.
Je l'ai
hein?
essayé, je l'ai même acheté.
Possédé.
Pour ensuite me la faire rembourser, puis je trouve que c'est gros gaspillage d'argent, puis je trouve que c'est une mauvaise idée de leur part à la Nintendo. Ça marchera pas. Ça marchera vraiment pas, je pense.
C'était très joli, là. Ça ressemblait au Nano, là. Oui. Au iPod Nano. Tu sais, je veux dire, c'était dans la même lignée, des petites micros à faire. Ben,
on va aller en publicité, on va revenir, mais juste avant d'aller en pub, j'ai complètement oublié de le faire, donc allons-y tout de suite. Voici le top 5 des mots-clés les plus recherchés, selon la version francophone canadienne de Sympatico. En cinquième position, Green Day. En quatrième, Horoscope 2006. En troisième, Batman. En deuxième, Vanessa Paradis. Et en première position, le mot-clé le plus recherché par les Québécois, supposément, selon Sympatico et MSN Canada français, est Britney Spears. On prend une pause et on revient tout de suite à la connexion. Ah, c'est fou, 89 ans. Au Québec, il va aller dans
le il a combien d'années qu'il n'a pas fait quelque chose?
Ridicule. Bon retour à la connexion par technologie informatique et jeux vidéo avec Mathieu Plante, Danny Janvier, comme toujours à mes côtés. C'est la dernière demi-heure et aujourd'hui, événement spécial, c'est quoi? C'est attention, attention, ça sent bien, ça sent pas long. C'est les trucs tordus du net. Bonjour David Rivalelli.
Bonjour les amis.
Ouais.
Tout d'abord, d'entrée de jeu, là, je vais y aller direct. Je vous souhaite une magnifique année 2006.
Ah, mais toi aussi, c'est donc bien gentil de ta part de me dire.
Ouais, je souhaite toutes sortes de choses, Mathieu. Je te souhaite quelques copines.
Oh,
Au pluriel.
Oui.
En même temps.
Ah, oh.
Oui, je vous souhaite, de faire un tabac avec quelques chansons.
Ah, ben, ah. Oui, j'aimerais bien ça.
Et pourquoi pas
peut-être.
Et pourquoi pas l'avenir nous appartient.
Oui.
On fera ce qu'on a décidé qu'on en ferait.
Demain, dès aujourd'hui.
Demain, dès aujourd'hui.
C'est fou, ça. Et David, nous, on te souhaite tout l'alcool, le sexe, drogue, rock'n'roll et le reste.
Ouais, mais vous me souhaitez la France, là.
Oui.
On souhaite le bonheur éternel à David Ribéry.
Ça s'agit ici, là.
Ok, donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui à la collection?
Eh bien, je sais pas comment la nouvelle a été traitée chez vous au Québec, mais nous, avant les 7, on a eu un petit aperçu de la prochaine plateforme d'exploitation de Windows.
Mm-hmm.
Ouais, de Microsoft. Ouais. Qui devait d'abord s'appeler la Longhorn, mais qui a changé de nom pour l'appellation Vista.
C'est vrai.
Vous en avez entendu parler ou pas?
Oui,
on a vu les photos.
Ici même, Mathieu en a parlé.
J'en ai parlé
un
petit peu, oui.
Ah oui, il en a parlé un petit peu?
Oui.
Ouais. Tout d'abord, est-ce que Mathieu, tu as parlé des ratés du calendrier? Parce que vraiment, ça va pas. La Microsoft prévoyait cette sortie en 2003.
C'est dur à croire qu'en 2003, on était supposé l'avoir. Moi, j'en reviens même pas, là. Sérieusement, 2003, ça fait 2 ans et demi, 3 ans.
Exactement. Une date avait été fixée novembre 2005.
Mm-hmm.
Finalement, une version bêta nous sera offerte en février 2006.
Une vraie version bêta, parce que là, il y a eu des versions piratées qu'on a retrouvées sur Internet, des affaires pas tellement récentes, des affaires, comment dire, en développement. Il y avait des affaires qui fonctionnaient pas dans ce Windows-là.
Exactement.
Qui nous montraient qu'il y a certains des nouveaux éléments.
Je vais vous dire bien franchement, ouais. Avec les spécificités système qui vont être requises, ça ne va peut-être pas marcher sur la plupart des ordinateurs. Car quand même, on dit qu'il faut au moins 512 de mecs de mémoire vive et 64 mecs de mémoire vive pour de mémoire vidéo.
Ouais.
Donc déjà au départ, ce sont les minimums. Mais on dit qu'il faudra sans nul doute compter le double, c'est-à-dire 1 giga de mémoire vive pour être tranquille. Donc la plupart des gens qui sont sur PC, qui ont probablement des deuxième ou troisième génération de PC, que ça fait quelques années qu'ils l'ont, pour bénéficier de la nouvelle plateforme Vista, devront avoir une nouvelle machine. Donc déjà là, je sais pas de votre côté, est-ce que vous avez ce qu'il faut comme ordinateur à la maison pour supporter ce genre de trucs?
La bêta fonctionnait sur le mien, donc j'imagine que c'est assez, mais c'est pas assez pour tout faire, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis quand tu fonctionnes avec les minimums, c'est jamais très très recommandé.
Non. Hein.
Mais bon.
Je crois que les gens vont devoir avoir des bombes nouveau prix, parce que, tu vois, moi, quand j'ai acheté ma dernière machine, on m'avait dit que c'était une bombe, mais là, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est un pétard mouillé, quoi.
En fait,
ça va vite, hein, une année et demie. Et...
Non, mais c'est drôle, j'ai presque l'impression que Microsoft sait qu'il sortira pas avant encore quelques mois, donc ils mettent les spécifications techniques des ordinateurs du futur, on dirait, quasiment, ça.
Exact.
Que personne va avoir, tu sais.
Ouais, c'est pas impossible. Chez Mathieu, ces gens-là, ils ont des arrière-pensées, quand même.
Ah, ils savent qu'ils font ça, Microsoft.
Ouais. Une des choses qui va demander beaucoup de mémoire vive et de mémoire vidéo, c'est l'effet Vista de 3D,
oui.
Lorsque plusieurs fenêtres seront ouvertes simultanément. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, si vous en avez entendu parler, mais que les fenêtres se descendent dans la barre des tâches, nous allons pouvoir naviguer un petit peu à la façon de Macintosh, sur un système de 3D de fenêtres translucides. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, là,
ouais,
si les gens peuvent bien voir dans leur...
C'est transparent, c'est laid. Il y a des effets quand les fenêtres sortent de leur place où elles sont, mettons, tu les minimises, elles vont sortir avec un genre d'effet d'éclatement, un petit peu comme ça.
Comme
le
Mac, c'est pareil.
C'est pareil, c'est pas original.
Exactement. Alors, on prend un petit peu les exemples sur les potes, les Macintosh et les Linux, et là, tu vois, on prend les meilleures fonctionnalités. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive aussi pour le navigateur. Parce que vous savez, que le principal problème de Windows, c'est la sécurité. On en a déjà discuté. Virus, hardware et tout. Et d'ailleurs, il y a un petit gag qui circule. Vous le connaissez, ce gag?
Lequel?
Vista. En fait, c'est l'acronyme des 5 plus gros problèmes de Windows.
Ouais,
virus, infection, spyware, trojan, hardware.
Ouais, ça c'est vraiment bien pensé. Ça.
Exactement. Et alors là, la course est lancée. Le premier virus qui fera démarrer l'ordinateur en disant hasta la vista, Windows. On dit c'est de l'humour.
je trouve ça bien.
C'est fort aujourd'hui. Donc exactement. Les navigateurs seront beaucoup plus sécuritaires. Le contrôle parental sera total à ce qu'on raconte. On n'aura plus besoin de divers services que, à partir de la plateforme, nous pourrons gérer totalement le contenu parental. Il y a aussi le phishing qui sera bloqué. Vous connaissez le phishing ?
L'hameçonnage.
Oui.
L'hameçonnage, c'est le subterfuge employé par des hackers pour faire croire qu'on navigue sur un site sécurisé.
Mais bon, sur
on rentre nos informations confidentielles, et ben paf, ils les récupèrent. Ouais. Et ils prennent nos numéros de carte de crédit, et ils se payent des sites porno et des CD et tout sort de trucs avec nos informations. Donc le phishing avec Windows Vista.
Un PH au début, non pas phishing comme la pêche.
Phishing, ouais, exactement. Phishing, PH, ouais. Ah ouais, c'est PH?
PHIS.
Ah ouais, moi tu vois, je dis phishing depuis des années, je croyais que c'était comme phishing.
Ouais, c'est ça, on le prononce phishing parce que PH, ça se prononce.
Ah, exactement. Ah, intéressant. On parle aussi du RSS, vous connaissez ce RSS?
Oui.
C'est une nouvelle manière de naviguer où les mises à jour de sites internet apparaissent rassemblées en un seul endroit sur l'ordinateur. Donc on n'a plus besoin de visiter un à un ses sites préférés pour prendre connaissance des nouveautés, tous automatiquement dans un fichier centralisé. Qu'est-ce que ça change pour les gens? Concrètement, pour les gens qui naviguent peu, ça change pas grand-chose. Par contre, pour des gens qui naviguent fréquemment des sites où la mise à jour est fréquente, ça va faciliter les opérations de mise à jour et la navigation n'en sera que meilleure.
D'ailleurs, c'est que tu peux voir toutes les mises à jour, toutes les nouvelles dans une seule interface au lieu de visiter chacun de ces sites-là à la fois.
Exactement. Puis Microsoft a d'ailleurs annoncé lors de la petite conférence de presse qu'ils ont fait dans les fêtes en Europe, avoir opté pour l'icône de Firefox.
Oui.
Internet Explorer 7, vous aviez annoncé ça?
On a parlé un petit peu de ça la semaine dernière. Oui.
Ah, c'est la semaine dernière? Ah, je suis en retard d'une semaine.
Donc,
le petit carré orange avec deux ondes radio stylisées s'afficheront dès qu'un flux RSS sera détecté. En fait, c'est une victoire symbolique, disons-le, pour le petit navigateur Firefox, qui a tout de même grignoté entre 11 et 17 parts du marché des navigateurs web, à ce qu'on raconte. Est-ce que vous l'utilisez, Firefox?
Oui, que ça.
Ah ouais.
Oui, évidemment, j'ai un plugin dans Firefox qui me permet d'ouvrir la page en cours dans Explorer si jamais elle fonctionne mal.
Ah, d'accord.
Une extension qui s'appelle AI View.
Ah, d'accord.
Je te renseigne comme ça.
Moi j'utilise bien Firefox, mais j'avoue que quelquefois c'est comme mon ancienne copine, tu vois. Mon ancienne copine, quelquefois au téléphone et on se fait
ça
des
fait du bien,
partout,
hein,
comme ça,
ça
tranquille. je navigue quelquefois sur Explorer quand même, parce que des fois Firefox, effectivement, il y a des sites où ça va pas, tu vois.
Ouais.
Donc j'y fais appel de temps à autre.
Particulièrement les sites en Java et en Flash.
Oui, exactement. Alors Firefox, ça, il aime pas du tout. Non. Il aime pas du tout.
Okay.
Donc quoi dire, sinon encore
les podcasts, est-ce que t'as accroché aux podcasts?
Pardon?
À la balado diffusion, les MP3 qu'on peut télécharger facilement, tu connais pas?
Non, c'est pas mentionné dans les informations que j'ai. Vas-y, informe-moi.
Je vais renseigner les gens à la maison pour ceux qui connaîtraient pas encore les podcasts. C'est en français balado-diffusion ou baladiffusion, c'est comme vous voulez. C'est des MP3 qui vont se télécharger directement dans un logiciel avec un flux RSS. Ça fonctionne par le RSS et les MP3 sont automatiquement téléchargés et envoyés automatiquement vers un lecteur MP3, par exemple un iPod ou n'importe quel autre.
Ok, d'accord. Je te fais un exemple concret. Donc,
oui.
Mon émission, par exemple, si elle était dans un flux RSS, dès qu'elle se termine, elle se vend MP3.
C'est ça.
On s'abonne, donc le MP3 se télécharge directement sur un ordinateur, de l'ordinateur directement à mon lecteur MP3, et comme ça, paf, j'ai pas à me casser la tête. Quand j'ouvre mon baladeur, j'ai la connexion sur mon baladeur.
Exactement. Par exemple, mettons, bon, la mienne, la connexion et la chance au coureur ont des podcasts sur leur site web cnx.cif.ca et chance.cif.ca.
Oui.
Prenons comme exemple Radio-Canada, qui diffuse des émissions quotidiennes et qui les mettent quotidiennement sur Internet. Tu peux te lever le matin, si ton lecteur MP3 est bien branché dans ton ordinateur et que les mises à jour se sont faites, tu t'en vas
par infrarouge. Maintenant, les lecteurs sont souvent par infrarouge.
Absolument. Bon. Et tu peux aller dans ton autobus, t'as même pas besoin de sortir tes MP3 puis de les télécharger à la main. Tu peux juste partir avec ton lecteur et écouter ce que t'as écouté.
Eh bien, qu'est-ce que c'est fantastique!
C'est fantastique!
Excellent! Alors, à quand la technologie RSS, là, pour votre station, c'est fou, là?
Ben, on y a pensé.
Ouais.
Un, ça prend beaucoup de place web, de serveurs et de bandes passantes. Et le fait que ça prendrait du temps.
De mise à jour tous les jours.
Ça prendrait quelqu'un engagé à temps plein pour couper chacune des émissions et les offrir en RSS, en MP3, en podcast. Et je sais pas si ça serait super populaire.
Tu crois?
Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas grand gens qui iraient les chercher. Mais
c'est,
moi, c'est ce que je pense.
Ah, t'es pas un petit peu pessimiste, là?
Non, peut-être, oui, mais... peut-être un petit peu pessimiste, mais aussi réaliste.
Ouais. Ah, d'accord.
Parce que
vous connaissez bien mieux la réalité de votre radio que moi. Peut-être moi, je suis qu'un vulgaire et sombre collaborateur alcoolique.
Ce que je dis, David, excuse-moi de revenir là-dessus, mais c'est... la technologie est très, très jeune.
Oui.
Les gens ne connaissent pas les podcasts. Et moi, j'aimerais mieux ne pas... Il y a des stations qui diraient « Commençons à offrir des podcasts tout de suite, même si c'est pas à la mode, mais encore, pas encore beaucoup. Juste pour être les premiers à le faire. Je veux pas que C'est fou soit juste la première radio québécoise à le faire, juste pour le principe de pouvoir le dire après. T'sais. J'aime mieux attendre que la technologie soit mature, que ça fonctionne facilement, rapidement, et que les gens veuillent l'avoir. Si les gens nous appellent tout de suite et nous disent « On veut des podcasts de toutes vos émissions, ok, on va... »
On va sûrement s'organiser pour le faire.
On va s'organiser, on va m'engager, moi, à temps plein, pour venir le faire.
Ah,
tu comprends?
T'as raison, parce que mais souvent, quand la technologie n'est pas bien installée dans les mœurs, les gens qui développent, ils ont payé les coûts aussi. Ils ont des frais, il faut qu'ils lâchent l'argent, et ça c'est jamais intéressant pour une petite entité comme vous, je crois.
Est-ce qui s'en vient, David, pour te renseigner encore une fois, au-delà des podcasts, ce qui existe depuis déjà plusieurs années, c'est ce qu'on appelle les vidcasts, qui sont des émissions de télé distribuées par Internet, par BitTorrent.
Okay. Ah, par BitTorrent, bien sûr.
Par BitTorrent et par RSS et par iTunes, parce qu'iTunes offre les vidéos et offre des émissions de télé que moi-même, si je voulais, je pourrais créer, si j'avais le matériel pour, je pourrais créer ça. Donc, c'est fou, dans le futur, dans 10 ans, peut-être qu'on va se lancer dans les vidcasts après les podcasts. Peut-être qu'on va offrir des émissions vidéo de nos émissions de radio.
J'aimerais bien te voir, toi, Mathieu, dans un vidcast, là. Je suis sûr que tu bouges lassivement, là.
Merci, ouais, je bougeais en train de dire ce que je disais, je bougeais. Juste.
Très sexy.
Très, très sexy.
Ah ouais, t'as dit, il est sexy, Mathieu?
Oh oui.
Okay.
Total.
Des photos, hein, j'ai vu que des photos, j'aimerais bien voir bouger, ouais.
Hey, y a même pas de photos de toi sur le site de la connexion.
Ah ben, je t'en enverrai une, je vais aller voir, je vais faire un tabac.
En buvant du champagne, s'il vous plaît.
Champagne?
Oui, oui.
Champagne, bon, d'accord. Une photo de moi, champagne à la main?
Oui.
Avec une perruque? Un béret?
Un pain sur le bras.
La connerie, là, quand même.
C'est une farce.
Merci beaucoup, David Ribanelli.
Ça fait plaisir, les mecs, à bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
C'était David Ribanelli, notre correspondant à Reims, en France. Restez là, la collection revient tout de suite. Voici The Darkness, One Way Ticket to Hell and Back. À CFOU 89.1 FM. Chosen to admit it. One Way Ticket The Darkness de l'album One Way Ticket to Hell. Maintenant, c'est l'heure de Cette semaine dans l'histoire. Donc, beaucoup de choses se sont passées cette semaine dans l'histoire et dans la semaine dernière, parce qu'évidemment, on n'était pas là la semaine dernière, donc on va faire ça cette semaine. Si je peux juste trouver l'article ici, en quelque part, je vais l'avoir, ce sera pas long. Faut que je le trouve. Ah, voilà! Cette semaine dans l'histoire! C'est selon le Computer History Museum, donc allons voir ça tout de suite. Il y a beaucoup de choses, c'est impressionnant, mais il y a beaucoup de gens qui sont nés et des technologies qui sont nées cette semaine dans l'histoire. Pour de vrai, allons-y! C'est compliqué. Le développeur de la mémoire virtuelle, Peter Denning, est né le 6 janvier 1942. Hein? Hewlett-Packard a présenté la HP 35, qui a fait l'histoire le 4 janvier 1972. L'Apple Computer Corporation a été incorporée le 3 janvier 1977. Le 3 janvier 1983, Time Magazine a nommé l'ordinateur son homme de l'année. Dans ce temps-là, l'homme de l'année pouvait, ben, même encore aujourd'hui, ils peuvent le faire, ça peut devenir la chose de l'année. N'importe quoi, l'ordinateur a été la personne de l'année en 1983.
Qui était un Commodore, je crois.
Qui était un Commodore.
Je pense que c'est un Commodore, en tout cas.
Très, très possible. On va en sauter plusieurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, dont des choses plutôt obscures. Mais on pourrait terminer par...
Il y a le 29 décembre qui est que moi-même je suis né.
Le 29 décembre en 1973, Danny Janvier est né.
Hey, ça c'est quelque chose.
Hey, c'est vraiment quelque chose. Et c'est ce qui conclut cette semaine dans l'histoire. Et Benny Hill. C'était magnifique.
Magnifique.
C'était vraiment quelque chose. Parlant de homme de l'année, Google a été nommé homme de l'année par le journal Financial Times. En fait, pas Google, mais bien les fondateurs du moteur de recherche Google ont été nommés homme de l'année. Sergey Brin et Larry Page se sont vus décerner cet honneur en raison de l'impact majeur qu'a eu leur compagnie chez les internautes et les gens d'affaires des quatre coins du monde. La publication a aussi louangé la valeur qu'ont su atteindre les actions de Google sur le marché boursier. On en parle régulièrement. Plus de 150 milliards de dollars canadiens, plaçant donc la jeune entreprise dans les ligues majeures où se frottent IBM, Intel et Microsoft et se frottent l'une à l'autre.
Et ça va faire un truc.
Ça va faire.
Ça fera peut-être des enfants à l'ombre de se frotter comme ça.
Les deux entrepreneurs sont tous les deux âgés de 32 ans. Ils admettent tout de même vouloir améliorer les produits de Google. Et parmi les favoris au titre pour homme de l'année figuraient le premier ministre japonais Junichiro Koizumi et le président ukrainien Viktor Yushchenko. On a parlé plutôt dans l'émission de iPod. On a parlé plutôt de d'autres choses, hein, entre autres. Dick Cheney branche son iPod de façon prioritaire. C'est ce qu'on a dit cette semaine. Attends, ça me tente vraiment de passer à la musique de... celle-là ici. Hein? C'est l'heure du plancher. On va s'arranger les prochaines semaines pour que ça fitte mieux avec l'émission, mais en tout cas... Dans la chronique Le Plancher cette semaine, Dick Cheney, le vice-président américain Dick Cheney, après un séjour de 4 jours au Moyen-Orient, a branché son iPod sur l'une des rares prises d'alimentation de l'Air Force 2 pour le recharger, frustrant les journalistes désirant s'en servir pour alimenter leur ordinateur portatif et ainsi envoyer leurs articles. Évidemment, c'est ce qu'on pouvait lire sur le site de ABC. Le voyage du retour étant de plusieurs heures, Dick Cheney voulait donc relaxer en écoutant de la musique, d'où l'importance que les piles de son iPod soient pleinement rechargées. Selon un porte-parole de la Maison-Blanche, le iPod du vice-président contiendrait des chansons extrêmement variées, passant de la musique classique au country. Républicain, country, ça fait bien ça. Dick Cheney serait d'ailleurs un inconditionnel du défunt chanteur Johnny Cash. Hein? C'est bon de savoir ça?
Oui, je voulais te dire qu'est-ce qu'il écoutait.
Qu'est-ce que Dick Cheney écoute sur son iPod? L'aquarium de Saint Louis, dans le centre des États-Unis, a décidé de vendre aux enchères sa pièce maîtresse, un exemplaire tout à fait unique d'un serpent à deux têtes. Les enchères sur le site d'eBay commencent à 150 000 $ pour cette couleuvre albino à deux têtes, nommée Oui, ou Nous en français, propriété de l'aquarium depuis 1999. L'aquarium l'avait acheté à 15 000 $ en 1999, conscient qu'il ne risquerait pas de vivre plus de quelques mois. Mais aujourd'hui, Oui est âgé de 6 ans et demi, mesure 1,2 mètre de long, et son corps est blanc, mais ses deux têtes ont une teinte rougeâtre. Hein? C'est 150 000 $ US. Pour une couleuvre. Un homme choisit de s'appeler KentuckyFriedCruelty.com. Ouais. Après, Il va falloir l'appeler Chris, ça va être pas mal plus facile, je pense. Un jeune Américain défenseur des droits des animaux a officiellement changé son nom de famille pour protester contre le sort réservé par la compagnie de restaurant Kentucky Fried Chicken, ou PFK, le poulet frit Kentucky, à ses poulets. Il s'appelle désormais Chris KentuckyFriedChicken.com, KentuckyFriedCruelty.com, c'est ce que je voulais dire. J'étais quand même proche. Franchement, ce serait ridicule de s'appeler KentuckyFriedChicken.com. Franchement, ce serait ridicule. Donc, Chris, de son vrai nom, Chris Garnett, il a 19 ans. Attends même que ça me tente de mettre une musique encore plus drôle pour ça.
Mets une musique de poulet qui soit égorgé, s'il te plaît.
Ah, c'est dommage, mais j'en ai pas. Oh. Ah, avoir su, j'aurais été chercher ça. Ça aurait été ridicule. Ridicule. OK, donc, en fait, bon. Chris Garnett, 19 ans, explique avoir changé de nom en signe de soutien à la campagne de la PETA, la PETA, qui est une organisation américaine de défense des droits des animaux contre KFC. La campagne de la PETA s'appuie sur des images tournées l'année dernière montrant des mauvais traitements réservés aux poulets dans une usine de Moorefield en Virginie-Occidentale. C'est eux qui fournissent PFK en viande. Hein? Et la société mère de PFK, Yum Brands, a démenti ces accusations, disant que c'est pas vrai. Pamela Anderson, la star de Alerte à Malibu, qui a prêté sa voix au clip de la PETA montrant ses mauvais traitements, soutient l'action de Chris KentuckyFriedCruelty.com et a dit, et je cite, « Je suis certaine que Chris est impatient que PFK arrête de torturer les animaux pour pouvoir reprendre son vrai nom. » C'est ce qu'il a déclaré dans un communiqué. « Mais la torture des poulets, c'est affreux et ça doit arrêter », a-t-elle rajouté. Ah, je te dis.
C'est quoi, ils vont faire du Kentucky Fried Tofu?
Ah, ça pourrait être bon. Ça, je pense que ça se vendrait. C'est pas bien.
Okay, on passe à autre chose.
On va, j'ai des millions d'autres choses à faire. Pour comment, je vais y aller extrêmement rapidement sur cela. Par contre, une nouvelle console portable pourrait être dévoilée au Consumer Electronics Show. Ça s'en vient. On va en parler la semaine prochaine si c'est le cas. Les Sims vont être immortalisés sur des timbres en France. Ça va être dans la nouvelle série de timbres ayant rapport à des héros de jeux vidéo. C'est le 15e anniversaire du Furteur Web en général cette semaine. Hein? Ça, c'est vraiment bien. 15e anniversaire de ça. Microsoft s'est séparé de MSNBC, la chaîne de nouvelles qui fait compétition à CNN et Fox News. Donc, Microsoft ne fait plus partie. Mais en fait, elle en fait encore partie pour les deux prochaines années. Mais graduellement, le pourcentage de part va être réduit jusqu'à temps que ça devienne complètement. Ça va appartenir complètement à NBC Universal. Et le reste, ce sera pour la semaine prochaine. On va se quitter sur un clip vidéo qui fait fureur en ce moment sur Internet, même que j'en ai entendu parler ici même à l'université. Il y a des étudiants de Montréal, je crois, ou d'ailleurs au Canada, qui venaient visiter. Et on va l'écouter au complet. Ça fait fureur, c'est sur Internet. C'est un clip de l'émission Saturday Night Live, l'émission de sketch aux États-Unis. Donc on va écouter, ça s'appelle Lazy Sunday, avec Chris Parnell et Adam Simberg, il me semble, c'est leur nom. Donc on écoute, c'est un SNL Digital Short, on l'écoute, c'est ce qui termine l'émission de La Connexion pour cette semaine. Merci d'avoir été là, merci à Danny Janvier, qu'on retrouve demain dans La Chance au Coureur avec moi, est-ce que tu vas être là?
Ouais, sûrement, oui, demain. Ouais.
Demain, c'est notre spécial restant de La Chance au Coureur.
Et La Connexion, écouté, en tout cas, pour
c'est
demain.
Justement, c'est l'idée. Et la semaine prochaine, on va être de retour pour La Connexion les jeudis à 11h, en rediffusion les mardis à 10h. Mais maintenant, on se quitte sur ce SNL Digital Short, voici Lazy Sunday à CFU89.1 FM, bonne semaine!
Up in the late afternoon, called Parnell just to see how he's doing.
Hello, what up, Parn?
Yo, Sandberg, what's cracking?
You thinking what I'm thinking?
Party up!
Man, it's happening!
Reverse my hunger pains, I'm sticking like duct tape.
Just hit up Magnolia and Mac on some cupcakes.
No doubt that bakery's got all my Bob Frosty.
I love those cupcakes like McAdams loves Gosling.
Gosling,
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 Gosling. No six,
no 12.
Baker cousin, I told you that I'm crazy for these cupcakes, cousin.
Yo, where's the movie playing?
Up on West Side, dude.
Well, let's hit up Yahoo Maps to find the dopest route.
I prefer MapQuest.
That's a good one too.
Google Maps is the best.
True that. Double true.
68 to Broadway.
Step on it, sucker.
What you wanna do, Chris?
Snack attack, mother. The chronic what calls of Narnia.
Yes, the chronic what calls of Narnia.
We love that chronic what calls of Narnia.
Pass that chronic what calls of Narnia. Don't stop at the deli, the theater's overpriced.
You got the backpack, gonna pack it up nice.
Don't want security to get suspicious.
Mr. Pippin, red vines equals crazy delicious.
You reach in my pocket, pull out the